On retrouve Elisabeth Antebi.
Rayon gamma, facteur epsilon. Un académicien des sciences nous parle des humanités. Aujourd'hui, Monsieur Jean Weissenbach, qui est né à Strasbourg en février 46, on peut encore le dire.
Oui, oui.
Bon, qui est académicien des sciences depuis le 19 octobre 1998, c'est bien ça?
Tout à fait.
Qui est directeur général du Génoscope, ou Centre National de Séquençage et entre parenthèses des gènes.
Oui, enfin de l'ADN, mais pas que des gènes, mais surtout, oui, c'est ça qui nous intéresse en premier chef.
Ce site a été créé en 1997 à Ivry, sur le site Génopol. Tout ça, c'est des mots grecs d'ailleurs. Hein,
oui.
Alors, l'une des premières prouesses de M. Weissenbach dans ce lieu a été, si j'ai bien compris, d'établir une carte génétique de l'homme.
Oui, tout à fait. Dans les années 90, c'est-à-dire avant la création du centre, en fait.
Ah oui, quand c'était le généton, je crois.
Voilà.
Oui. Ah oui. Et entre autres choses, parce que vous êtes pris de bien des choses, dont le prix Athéna, d'ailleurs on y reviendra peut-être, vous êtes impliqué dans bien des centres de recherche. Ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes aussi président du comité scientifique de l'Institut Max Planck de génétique moléculaire de Berlin. Alors ce prix Athéna, qu'est-ce que c'était?
C'était le prix Athéna, c'est un prix qui est décerné une fois par an à un biologiste.
Et pourquoi Athéna? Pourquoi ma déesse de
pourquoi
l'intelligence?
Athéna, c'est une compagnie d'assurance, tout simplement.
Ah mon Dieu, vous voyez comme aujourd'hui Socrate est devenu un système de réservation des trains.
Ben voilà, les
Athéna,
assureurs
la compagnie
doivent considérer
d'assurance.
Qu'il est sage de s'assurer. Voilà.
Bon, pauvre Grèce. Alors, à propos de Grèce, plus sérieusement, vous avez signé l'appel pour le latin et le grec, qui a quand même rassemblé 70 000 signatures, et qui a été lancé en 2004 par Jacqueline de Romilly de l'Académie française, et bien des associations comme, entre autres, la CNARELA, c'est-à-dire la Coordination nationale des associations régionales des enseignants de latin, de langues anciennes. Alors pourquoi vous avez signé ça alors que vous venez de la science pure et dure, si je puis dire?
Ben, avant d'aller à la science, j'ai fait mes études secondaires comme tout un chacun et j'y ai appris le latin. Je voulais aussi apprendre le grec, mais mes parents n'étaient pas chauds du tout pour que je fasse du grec.
Pourquoi?
Parce que j'avais fait anglais première langue et on considérait qu'en Alsace, il fallait quand même savoir un peu l'allemand. Bon, donc j'ai fait allemand au lieu de faire du grec. Alors j'ai fait un peu de grec en autodidacte à la maison, mais ça n'a jamais allé très loin.
Mais enfin, vous parlez grec toute la journée, puisqu'on parle de génoscope, de génétique. Est-ce que vous y pensez quelquefois?
Tout à fait, tout le temps.
Quand
sûr.
On parle de mononymes.
Aux racines des mots, tout le temps, bien sûr.
Les oligo-éléments, enfin.
Tout à fait.
J'en passe des meilleurs. Bon.
Bien sûr.
Alors, oui, pourquoi vous avez signé cet appel alors?
Pourquoi j'ai signé cet appel? Parce que je pense qu'effectivement, ça fait vraiment partie de notre bagage culturel. Je pense qu'un enseignement digne de ce nom généraliste se doit de mettre les enfants en contact avec les langues anciennes, parce que finalement, notre culture a baigné dans les langues anciennes jusqu'à très récemment. Et c'est, je crois, extrêmement dommage que ceci soit en train de partir en lambeaux.
Alors pour Jacqueline de Romilly, les langues anciennes donnent, comme vous le savez, un cadre de pensée. C'est-à-dire qu'elles permettent de dominer les émotions et de dominer l'implication trop immédiate. Permet la recherche, d'ailleurs au sens profond du mot, la recherche, la réflexion, la distanciation qui est au fond... Au fond, les Grecs ont inventé avec la techné, qui est à la fois l'art, la technique, ont inventé avec l'exploration, avec les grands savants grecs d'Asie, d'ailleurs qui venaient d'Asie, ont inventé une espèce de distance et surtout de séquençage, de catalogage des connaissances. Est-ce qu'on en a conscience? Est-ce qu'un directeur de recherche comme vous en a souvent conscience?
Non, ça peut-être, je ne suis pas allé jusque-là. Par contre, je pense qu'effectivement, là, disons, dans notre façon de penser, dans notre façon de présenter les idées, enfin, je pense qu'il n'est pas temps que ce, ce qu'on nous a appris de la construction d'une phrase latine est ancré dans notre cerveau. Et lorsqu'on présente des résultats scientifiques, tout à fait inconsciemment, on remet en marche cette logique. Et j'ai souvent parlé avec des collègues étrangers qui étaient amenés à évaluer mon travail, sans me le dire, bien entendu, a priori, parce que, lorsque ce travail était en cours d'évaluation, mais a posteriori, en me disant, mais finalement, lorsqu'on a des articles de chez vous, c'est écrit clairement. Et j'étais très content de cette remarque. Effectivement, je me suis toujours donné règle de fonctionnement, d'énoncer les choses clairement et de pas me laisser déborder par les faits.
Quand on regarde le sujet de vos recherches, quand même, moi je vois que depuis mai 99, vous développez la séquence complète du Pyrococcus abyssi. Alors quand moi je me demande, en lisant ça, ce que c'est que cet animal, je lis d'abord votre explication, qui est que c'est une archéa, hein, oui. Une archéa, alors là il faut que je sache le grec, hein, pour savoir qu'archéos c'est grec, c'est ancien, antique, etc. Oui. Isolé à partir d'une source chaude, ce que j'ai compris parce que je sais ce que c'est que pyros, le feu, pyro. Oui.
Une source hydrothermale, tout à fait.
Coccus, j'ai pas bien compris ce que c'était.
Ce sont des formes de cellules bactériennes qui sont des coques rondes. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle coccis.
Ah d'accord.
Des
coques de feu, quoi.
Des coques de feu, voilà.
Bon. Situé à 3500 mètres de profondeur, et voilà notre abyssi. Alors, donc vous voyez, on arrive à comprendre... avec le grec et le latin. Ce que vous faites, attendez, je vais plus loin, vous parlez aussi d'un projet sur le génome du poisson tétraodon, et ce tétraodon va revenir d'ailleurs, Fluviatilis, alors dont tout laisse à penser qu'il vit dans un fleuve, puisqu'il est Fluviatilis, c'est ça ?
Oui.
Mais alors, tétraodon, il a quatre quoi ?
Quatre dents.
Ah, quatre dents. Bon, voilà, vous voyez, hein, on y arrive.
Tout à fait.
Et enfin, ce qui paraît abasourdissant, que grâce au séquençage du génome d'un autre poisson, Tetraodon nigro viridis...
Oui, alors Fluviatilis a changé de nom entre-temps, parce qu'on s'est rendu compte que nous ne travaillions pas sur Fluviatilis, mais sur une espèce qui s'appelle nigro viridis.
Et donc, grâce à ce séquençage, parce qu'il faut être sérieux, un groupe que vous coordonnez révèle la structure du génome de l'ancêtre commun à l'homme et au poisson, qui est constitué de seulement 12 chromosomes, si j'ai bien compris.
Oui.
Alors, tout cela, bien sûr, nous fait sourire, mais ça vous permet aussi de vulgariser vos travaux et donc de les expliquer aux gens extérieurs, non ?
Alors, bon, cette terminologie remonte quand même à il y a plusieurs siècles. Hein. Ce sont les naturalistes du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont commencé, surtout du XVIIIe siècle, qui ont commencé à utiliser cette nomenclature latine pour désigner les espèces. Et ceci s'est maintenu parce que finalement, pour la désignation des espèces, le latin reste la langue de référence et la langue commune à tous les naturalistes, à tous les biologistes.
Alors pourquoi déjà ? Pourquoi garder le latin ?
Pourquoi garder le latin ? Par simplicité, parce que je crois qu'effectivement, si on prenait une langue moderne, on aurait certainement des problèmes à désigner des espèces, parce que même désigner des espèces, c'est pas toujours simple. Et là, on a quelque chose qui est partagé Il y a un côté d'universalité, absolument.
Donc quand vous rencontrez
les Asiatiques ont adopté sans problème.
Donc quand vous vous rencontrez, même sans parler la langue, vous savez de quoi on parle, quoi. Bon.
Oui. La désignation de l'espèce est quelque chose qui fait sens pour tout le monde. Oui.
Alors quand même, parlons de votre découverte, parce que c'est quand même intéressant, et non seulement intéressant, mais extraordinaire. Parce que nous parlons là depuis le début de cartes génétiques, de séquençage, de choses comme ça, comme si c'était tout à fait évident. Et vous m'apprenez que je suis la cousine du poisson.
On le savait.
C'est quand même... la plupart, moi, je ne savais pas bien que j'étais la cousine du poisson. Je croyais déjà que j'étais celle du singe, dont je différais d'1% de quelque chose, d'ADN.
Le singe, c'était un cousinage très proche, alors que le poisson, c'est une parenté qui remonte à 400, 500 millions d'années.
Alors, plus sérieusement, quel est l'objet donc de vos travaux et quel est leur but, au fond ?
En fait, ce travail avait été, à l'époque, initié pour des raisons tout à fait différentes. Ce que nous voulions faire, c'était utiliser la séquence du génome du poisson pour analyser le génome humain par des méthodes de comparaison. Alors, il y a toute une histoire dans laquelle je pense qu'on n'a peut-être pas vraiment le temps de s'approfondir. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au départ, lorsque le projet génome humain, le séquençage du génome humain a été lancé, donc ça remonte fin des années 90, la capacité de séquençage était relativement modeste. Et donc, nous nous sommes intéressés à cette espèce parce qu'elle avait un génome à peu près 8 fois plus petit que l'humain. C'était le vertébré avec le génome connu le plus petit. Et donc, comme les vertébrés, justement, ont effectivement cette origine commune, il y avait de très grandes chances que les gènes qu'on trouve chez le poisson soient peu différents des gènes qu'on trouve chez les mammifères. Et donc, on s'est basé sur cette différence de taille pour faire de ce poisson un objet de comparaison et donc pour s'intéresser à son génome. Et ça, ça nous a permis assez rapidement de complètement réévaluer le nombre de gènes chez l'humain. On avait à l'époque prédit autour de 30 000 et qui aujourd'hui est plutôt autour de 20 000. Donc, alors qu'avant, tout le monde fantasmait avec 100 000, 150 000, 200 000 gènes.
Et alors maintenant, donc, l'orientation de vos travaux, vous me
alors
dites que ça a changé un peu depuis le début.
Oui, maintenant, l'orientation des travaux maintenant, je me suis complètement réorienté sur, des vieilles disciplines qui sont la microbiologie et la biochimie.
Elles ne sont pas si vieilles quand même.
Elles sont, pour des jeunes chercheurs aujourd'hui, ça a l'air d'être extrêmement antique.
Ah oui, déjà.
La biochimie en particulier, oui.
Oui, oui, c'est vrai, oui. Alors, si un Grec de l'époque de Périclès revenait et que vous lui disiez que vous avez un jour accompli un stage postdoctoral sur le clonage, si je ne me trompe pas, sur le clonage de gènes d'interférons humains dans le domaine de la biologie moléculaire, il comprendrait sans doute que vous vous êtes occupé de petites pousses, hein, c'est ça le sens grec du mot clone, qui reproduisaient des générations, le sens du mot gène, de quelque chose dans une discipline ayant trait à la vie et à la masse, molécule, mollesse, la masse. Bon, est-ce qu'il serait loin de la vérité? Est-ce que ce que je raconte vous paraît du petit chinois?
Oui. 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 Oui, parce que le sens des mots a quand même considérablement évolué.
Oui.
Et oui.
Donc quand même, non. Le clone n'est pas une petite pousse, etc., etc. Bon.
Alors, le clone est une petite pousse, si on veut, mais enfin, pour le reste, ça, c'est quand même très, très dérivé.
Bon. Alors, je viens à une autre chose qui est que c'est très dérivé, mais lorsqu'on a interrogé James Watson, donc le découvreur, le co-découvreur avec Crick, de l'ADN, et des quatre lettres désignant les nucléotides de base, et que je prononce toujours ACGT, sur les conséquences de sa découverte, il s'est écrié « J'ai réécrit la Bible ». Alors, vous qui avez travaillé quand même à l'Institut Weizmann, aussi bien qu'à l'Institut Pasteur, pourriez-vous dire qu'outre la démarche rationnelle à l'origine du déchiffrement de l'exploration scientifique qui nous vient des Grecs, comme démarche, qui n'est pas du tout orientale, nous avons un autre héritage peut-être, comme le dit un philosophe comme Georges Steiner, qui nous vient du judaïsme, et je songe au fameux verset, comme lui d'ailleurs, où Dieu donne à l'homme tout pouvoir sur les êtres animés de la terre, etc. Bon. Est-ce que avez-vous conscience d'un tel courant qui est parfois antinomique au sein de la recherche? Parce que les Grecs, pour eux, c'est bizarre quoi, d'avoir tout pouvoir, de planter son drapeau sur une montagne et de dire « j'ai vaincu la montagne », n'est pas grec. Hein.
Mais Prométhée est grec.
Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et il est vrai que bon, la domination sur la nature, qui est un des fondements de la science occidentale, c'est d'origine judaïque, c'est la Bible, c'est clair.
Oui, alors est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous réécrivez la Bible?
Non, pas du tout.
Il avait dit, avec ces quatre lettres, j'ai réécrit la Bible.
Oui, oui. Non, pas du tout. Je crois que l'ADN, il ne faut pas lui apporter plus de pouvoir qu'il en a. L'ADN, c'est très important parce que c'est effectivement la forme de stockage de l'information génétique. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement la Bible, parce qu'il est crucial que cette information génétique reste, pas sanctuarisée, mais enfin, conserve son intégrité. Il ne faut pas qu'elle soit altérée, parce que si elle est altérée, évidemment, il s'ensuit des dysfonctionnements sur le plan pour l'organisme. Donc, de ce point de vue-là, il est vrai que ce qui est codé sous forme d'ADN ne doit pas bouger. Or, ça bouge, évidemment, c'est pour ça qu'on évolue. mais il est crucial que ça bouge le moins possible. Donc que de génération en génération, on puisse retrouver les mêmes propriétés, les gènes puissent fonctionner de la même façon, façon qui justement leur a assuré la survie jusqu'au moment considéré.
Oui, mais sur un autre niveau, ça n'est pas donc... Est-ce que la science peut penser la science? C'est toujours la grande question.
Certainement pas. Certainement pas.
Alors au Japon, moi quand j'étais au Japon à une époque, pour faire une enquête sur les biotechnologies, on se recueillait une fois par an à la faculté de médecine, et d'ailleurs dans toutes les boîtes de biologie comme à Yashibara, etc., on vous montrait d'abord le tombeau, la tombe des hamsters morts pour la recherche. Et comme vous le savez, on se recueille à la fac de médecine pour les levures ou les bactéries qu'on a dû sacrifier pour la recherche. Est-ce que c'est une attitude qui, pour vous, c'est très bouddhiste ou shinto, enfin ça n'est pas... Donc...
C'est le respect de la vie, quoi.
C'est le respect de la vie. Oui. Or, nous bidouillons la vie, vous bidouillez la vie, finalement.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il y a là quelque chose de proprement occidental dont vous avez conscience?
Oui, je crois qu'effectivement, le savant occidental de tout temps s'est arrogé le droit, à des fins cognitives, de sacrifier des animaux. Alors maintenant, pousser à l'extrême en disant « mais la bactérie, c'est de la vie, la levure, c'est de la vie », c'est vrai, c'est de la vie, je n'irai pas jusqu'à respecter les bactéries et les autres micro-organismes
les animaux vous posant, les animaux, disons, vertébrés, vous posant plus de problèmes.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Ils sont plus proches de nous, je crois que c'est purement anthropocentrique aussi.
Oui.
Mais ils souffrent comme nous.
La bactérie, on ne sait pas bien. Hein.
Oh, la bactérie...
elle n'a pas de nerfs.
Non, elle n'a pas de nerfs, elle n'a pas de système nerveux. Oui.
Donc vous assumez la vocation de savant occidental avec tout ce que ça veut dire.
Oui.
Et de réflexion occidentale.
Oui, complètement. J'ai baigné là-dedans tout le temps. J'ai été éduqué... dans ces schémas-là, on doit dompter la nature, Descartes le dit, on doit s'approprier la nature, on doit la dominer. Bon, effectivement, j'ai toujours fonctionné dans ce schéma-là. Enfin, la nature, il faut la respecter, parce que là, elle est en train de se venger.
Et, justement, la science étant née de la philosophie grecque, finalement, puisque la science est née de la philosophie grecque. C'est une branche, au départ, de la philosophie, avec Aristote, l'un de ceux dont l'esprit... Enfin, Parménide aussi, puisqu'il était matérialiste, disons, en gros. Lucrèce, etc., etc. Ça, c'est un latin. Est-ce que pour vous, maintenant, il faut retourner aussi à une part de philosophie? C'est-à-dire, est-ce que la science, maintenant, a trop oublié sa mère, si je puis dire? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un pont à établir avec la vulgarisation d'abord, parce que les gens n'ont plus de démocratie, puisqu'ils ne savent plus ce qu'ils choisissent, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum à leur expliquer? Je sais bien que les savants n'aiment pas, les scientifiques n'aiment pas beaucoup vulgariser.
Oh, quand même, je crois que ça change.
Oui, ça change, justement. Et est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, maintenant, de rejoindre la philosophie, ou du moins la pensée?
Je crois que ça s'est fait tout le temps, ça. Il y a plein de scientifiques se sont toujours intéressés aux aspects philosophiques. Prenez Einstein, prenez tous les grands physiciens du XXe siècle. Ils se sont quand même beaucoup, beaucoup posés de questions philosophiques.
Oui, mais aujourd'hui, on ne peut plus penser, puisqu'on n'a plus en main... vous l'avez dit tout à l'heure, la science ne peut pas penser la science, et les autres n'ont pas en main. Le dialogue avec le scientifique est devenu très compliqué, puisque les scientifiques entre eux, d'ailleurs, ont un dialogue assez compliqué selon leur spécialité.
Bien
Il y en
sûr.
A qui ignorent.
Oui.
Maintenant, le fragmentage est total.
Oui.
Donc, est-ce que ça ne pose pas un vrai problème par rapport à la divulgation et au choix, quoi?
Ce qui fait certainement peur, ce sont les applications de la science. Je crois que c'est surtout là. Et là, effectivement, la philosophie a son mot à dire. Et le scientifique doit, bien entendu, réfléchir sur les conséquences des applications des...
Ou fournir les éléments, parce que je comprends bien qu'un scientifique ne puisse pas réfléchir pendant qu'il travaille.
C'est un citoyen comme tout le monde.
Oui.
C'est un... Je dirais... ça reste un honnête homme, comme tout le monde. Enfin, ça devrait. Il est vrai qu'en tant que scientifique...
Il y a peu de savants fous.
Il y a peu de savants fous. Il y en a toujours eu. Il y en aura toujours, bien sûr. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, quand même.
Bon, non, c'est votre expérience, quand même. Oui.
Non, il y a peu de savants fous.
Bon, cette aventure extraordinaire, vous avez parlé de Prométhée. Est-ce que vous avez l'impression réellement qu'on a volé le feu aux dieux pour le bien de l'homme?
Nous nous sommes substitués à Dieu, c'est évident. On essaye de le faire.
Alors là, c'est Épiméthée, celui qui pensait après, parce que Prométhée, c'est celui qui pense
Oui,
avant. Donc on passe un peu à Épiméthée, là, en ce moment. Et à Pandore.
Et à Pandore.
Nous sommes avec Jean Weissenbach et nous nous retrouvons dans quelques instants.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles, historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Oui, alors à propos de la pensée grecque et de la pensée latine, surtout grecque d'ailleurs, aux origines, est-ce qu'il n'est pas un peu étonnant de voir que bien des choses ont été pensées?
Tout à fait, enfin, c'est très étonnant effectivement, en particulier la vision qu'ont eu certains Grecs sur la structure de la matière, composée de particules, composée d'atomes, et ça a été vérifié 20 siècles plus tard, ou à peu près, donc ça a été... une prémonition absolument géniale. Et en même temps, c'est très important sur le plan philosophique, parce que si la matière est formée de particules, on peut effectivement concevoir qu'on puisse prévoir comment ces particules vont interagir les unes avec les autres, comment elles vont se comporter, etc. Donc, il y a là-dedans aussi la notion que la science va avoir un pouvoir prédictif. Et c'est ce qui s'est effectivement passé, quoi. Je crois que c'est quand même la puissance de la science, ça a quand même été ça. Avant tout. Ça fait peut-être pas rêver, mais c'est quand même crucial.
Et comme aurait dit quelqu'un que nous connaissions, et les dieux dans tout ça?
Je crois qu'ils sont quand même très mal en point.
Les dieux grecs.
Tous les dieux.
Oui.
non seulement les dieux grecs. Bon, aujourd'hui, il y a un retour religieux qui est quand même, je pense, essentiellement un retour de l'irrationnel et qui est très inquiétant, à mon avis.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre... spiritualité, disons, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, est-ce que il n'y a pas autre chose dans la religion qui relie, qui est faite pour relier, qui n'est pas comme là je reviens au latin, mais c'est relier, et la secte est faite pour couper. Ça ne serait pas sectaire. Et est-ce que la religion elle-même, Einstein disait une chose qui était intéressante. Une fois, on l'a interrogé sur les symphonies de Beethoven, et on lui a demandé, est-ce que vous croyez qu'un jour tout, absolument tout, pourra se réduire à des chiffres? Il y a des nombres. Et alors Einstein a répondu, oui, absolument tout. Mais qu'est-ce que vous comprendrez quand je vous dirai qu'une symphonie de Beethoven est une succession d'intensités sonores? Il y a bien autre chose que la science.
Il y a la perception de ces intensités sonores que notre cerveau interprète d'une certaine manière, et ça aussi c'est de la science encore.
Oui, mais peut-on dire que l'amour, par exemple, c'est la rencontre de deux atomes compacts, puisque les corps sont des atomes, si j'ai bien compris, et puis d'un jet d'adrénaline?
Malheureusement, je crains fort que oui.
Alors Eros, Thanatos, tout ça, Aphrodite?
Non.
Non.
Non, bon. Mais ça a introduit une notion de poésie, et je crois que la poésie est effectivement très importante.
Alors de quoi relève la poésie?
La poésie relève de ces notions irrationnelles, et il en faut, je crois qu'il en faut. De l'irrationnel, il en faut. Disons, rejeter le rationnel, ça, c'est ça qui est extrêmement...
Mais Apollon, au contraire, entre Dionysos et Apollon, c'est Apollon, le dieu de la poésie, qui est la raison, si je puis dire. Alors que Dionysos, c'est le vin, les bacchantes, la folie. Depuis Nietzsche, on le sait, si je puis dire. Mais c'est Apollon, le dieu des poètes. Ce sont les muses qui calculent. Il y a Uranie. Donc, quand même, les dieux grecs étaient des dieux sages.
Oui. Je pense qu'il n'y a pas cette dichotomie dans le panthéon grec entre, disons, ce qui est raison et ce qui est sentiment.
Oui, là, c'est Descartes. Hein, c'est l'interprétation cartésienne de la Grèce, finalement.
Oui.
Mais Descartes avait une vision terrible des animaux. Vous vous rappelez, dans le traité des passions, c'est épouvantable ce qu'il raconte. Donc, plus de dieux grecs, sauf la poésie.
Oui, c'est ça. Mais la poésie, c'est pour supporter le quotidien. Je ne pense pas qu'on puisse se projeter dans l'avenir avec une vision poétique, hélas.
Dans l'émission Parcours et notre émission plus spéciale des académiciens des sciences qui parlent des humanités, rayon gamma facteur epsilon, nous avons reçu Monsieur Jean Weissenbach qui dirige le séquençage de l'ADN, des gènes et de bien d'autres choses. Merci Monsieur Weissenbach.
Merci.